L'inertie, bon, je n'y reviens pas, en hiver, ça vous permet, une fois que votre mur est chaud, eh ben, il garde sa chaleur longtemps, on le sait très bien. En été, il reste frais, et même il reste frais d'autant plus qu'il est un peu mouillé, si on peut dire, hein, parce que la vapeur d'eau va avoir tendance à s'évaporer à l'extérieur du mur, et ça va créer un rafraîchissement. Vous savez tous en été que quand on arrose une terrasse en plein soleil, dès que l'eau s'évapore, ben, la terrasse se rafraîchit. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Mais de toute façon, en été, les murs anciens, avant qu'ils ne prennent la température donnée par la chaleur estivale, vont se chauffer très très lentement, d'une part, et le peu de chaleur qu'ils auront stocké, elle va migrer à travers le mur très, très lentement, et donc il y aura un effet de déphasage important. C'est-à-dire, si votre mur il est chaud sur sa face extérieure à 2h de l'après-midi, eh ben, la chaleur ne se propagera éventuellement dans l'habitation que dans la soirée. Donc, et dans la soirée, si vous arrivez l'air extérieur devenant frais, si vous ventilez votre maison, vous avez donc un confort à peu près bien assuré. De toute façon, en été, si votre mur est chauffé par le soleil, de toute façon, il n'en stockera qu'une partie, donc il ne va pas tout transmettre. Donc il y a un amortissement aussi de la valeur de la moitié ou de l'énergie absorbée qui sera vraiment transmise. Alors après, donc, se posent les problèmes, je viens de l'évoquer. Où donc placer l'isolant? Alors je vous ai dit intérieur ou extérieur. Pour nous, c'est forcément à l'intérieur, on ne va pas altérer les qualités du bâti, et ensuite donc contribuer à l'inertie du mur. Voilà. Alors, pour mémoire, toutes les questions de pollution, d'impact sur l'environnement, etc., prenons des matériaux sains, peu transformés, etc., non toxiques. Bon, dans les questions de... qu'il n'y ait pas de transit d'air, etc., parce que vous pourriez absorber, etc. Ça, c'est évident, l'étanchéité à l'air, c'est important. Et puis, pendant le chantier aussi, veillez vraiment à être suffisamment bien protégé pour éviter... Voilà, dernier petit élément, je crois, le comportement au feu caricatural. Donc, il y a eu des tests faits entre, ici, une laine de verre. Alors, c'est marqué, là, je ne vais pas... Alors, voilà, toiture ici. Toiture ici, là. Vous avez de la laine de verre avec qui est classé incombustible et avec une petite sous-toiture, un espèce de petit film, voilà. Ben, au bout de 50 minutes, je crois, 50 minutes de feu, tout a disparu, là, alors qu'ici, vous avez un isolant en fibre de bois, qui est classé comme combustible, lui, par contre, mais il a une sous-toiture qui est en fibre de bois aussi, donc ça résiste beaucoup mieux, finalement, expérimentalement, que des matériaux qui sont réputés incombustibles. Parce qu'il y a une inertie très importante qui se manifeste. Voilà, alors maintenant on en arrive à la pratique. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer. Quelques imageries, sur les principes de base pour intervenir, sur l'enveloppe, et puis sur les équipements, mais ça sera pour mémoire. Alors, les principes de base, c'est une en conclusion. Alors, ne pas empêcher la respiration des matériaux, bien sûr. Et puis, alors, privilégier, donc, mais ça sera pour les sources d'énergie, après, la chaleur des parois, celle de l'air. Et donc, privilégier les modes de chauffage par rayonnement, on va le voir. Et donc, voilà. Alors, matériaux adaptés, supprimer les sources d'humidité, souci constant. Alors, les performances thermiques, on va aborder les combles, les murs et les fenêtres. Et puis, les questions de ventilation, on va en parler aussi. Voilà, les matériaux adaptés. Donc, c'est évidemment, on en a dit deux mots, bon, un peu d'énergie grise si possible. Ça, c'est du verre, et ça, c'est de la paille, et de la fibre de chanvre et de cellulose. Vous voyez qu'il y a une différence considérable de consommation d'énergie pour fabriquer ces matériaux. Autre élément important, ici, ces matériaux écologiques sont des matériaux qui, dans leur fibre même, absorbent l'humidité. Tandis que les matériaux comme de la laine de verre, ils absorbent l'humidité à l'extérieur des fibres. La fibre elle-même, le fil de verre que constitue l'élément même de votre laine de verre, la fibre de verre, elle n'absorbe rien. C'est l'air qui est entre les vides de ces qui stocke l'air, hein, qui l'empêche de moucher trop. Tandis que dans les matériaux écologiques, c'est non seulement entre les fibres, mais c'est la fibre elle-même, par sa cellule, qui absorbe la vapeur d'eau et qui est capable après de la restituer. Hein, c'est comme une éponge, quelque chose. Voilà. Alors donc les matériaux écologiques sont vraiment recommandés, bien sûr. Et puis, respirant comme les... Alors bon, petit croquis de rappel. Hein. Si vous avez un bâti ancien qui est humide, n'essayez pas de faire des miracles. En gardant les murs humides, essayez déjà de lutter contre l'humidité. Donc une première bonne réaction générale, c'est de regarder s'il n'y a pas des remontées capillaires dans votre mur. Et donc de les traiter en faisant un drainage, etc. C'est ça que ça veut dire. Bon, ensuite, si vous avez un sol qui est un peu humide, si vous, alors ici vous avez un exemple de décroutage, une croûte de ciment sur un mur ancien, ce mur était en train de se ruiner complètement, et bien on l'a asséché complètement en enlevant cette croûte, saignée de sauvetage, ça, on sauve le mur, alors qu'on avait cru dans les années 50 et 80 le sauver en le protégeant d'une agression de l'eau extérieure, mais que comme l'eau elle vient de par le sol et de par d'autres éléments, donc c'est en enlevant cette croûte imperméable qu'on arrive à sauver ce mur-là, et en le laissant à nouveau respirer. Bon, petit croquis toujours de chez Bouquin de Jean-Pierre Oliva. Comment on fait un sol? Alors si on peut refaire un sol, hein, en dehors de tous les drainages à travers le hérisson, etc., qu'on peut faire et l'aération, faire un élément isolant, et puis après faire ces éléments pour recevoir le carrelage ou votre revêtement. C'est ça que ça veut dire. Bon. Alors, en ce qui concerne... On va parler après des cons. Alors, en ce qui concerne les murs, alors, il y avait des techniques qui étaient très utilisées jusqu'à maintenant. C'est qu'on faisait ici une lame d'air par rapport au mur froid. On faisait une lame d'air et puis on mettait un parement. Éventuellement, cette lame d'air, on la comblait avec de la laine de verre ou pas. Bon, en tout cas... Si on fait le système de lame d'air, c'est de moins en moins conseillé. Parce que la lame d'air va vous amener, le mur étant froid, ici, vous avez un parement qui est chaud, la vapeur va migrer, elle va se trouver dans un vide, et elle va tendance à avoir peut-être des condensations hein, au contact de ce mur froid, et de, brusque, et donc vous n'allez pas pouvoir gérer cette eau de condensation. Donc, on prétend qu'en ventilant, on va pouvoir la faire se transformer en vapeur d'eau, mais ça se fait assez difficilement. Donc, ce que l'on conseille le plus maintenant, c'est d'avoir une intimité complète, un contact complet entre l'isolant que vous allez mettre, le système d'isolant que vous allez mettre, et le mur. Voilà, qui est donc toute cette continuité de passage de la vapeur d'eau à travers tout le mur. Donc vous avez différentes possibilités. Donc il y a des croquis où on met simplement un petit parement devant l'isolant, ou au lieu de mettre un petit parement, on met carrément une contre-cloison, plus costaud, etc., et qui doit être respirante et qui vous fait un travail de thermique très intéressant. Tout ça, évidemment, étant bénéficiant du plus d'inertie possible pour participer de l'inertie de votre mur. Alors, donc, les procédés les plus en vogue actuellement, c'est de mettre un enduit qui vous résout tout le problème, de maintenir, de garder les qualités d'inertie de votre mur, et d'apporter un élément qui vous assure un petit peu d'isolation pour lutter contre l'effet paroi froide, et qui en même temps a de l'inertie. Donc, c'est l'enduit chaud chambre, voilà, qui est très préconisé actuellement. Il faut dire que c'est un procédé qui est un procédé humide. Hein, c'est-à-dire qu'il faut compter le temps de séchage de cet isolant par rapport à des procédés qui sont par voie sèche. Voilà. Alors les combles, alors ça c'est très important. Bon, c'est un. Alors j'aurais pu vous le mettre. Vous savez que les déperditions les plus importantes dans une habitation, c'est au niveau des combles. On considère qu'il y a un tiers ou 30% de déperditions par le haut. Par les murs, il y en a, je ne sais plus combien, 15%, etc. Par les fenêtres, il y en a 7 à 15% aussi. Et par les sols, les fonds thermiques, etc. Mais c'est déjà au niveau des combles, vers le haut, qu'il faut faire le premier et le plus décisif effort. Voilà. Alors que ce soit en rampant sous la toiture ou bien sur le sol de votre grenier, de votre comble, etc. Alors moi, j'ai pris surtout l'isolation sur les rampants, parce que c'est plus difficile à faire et que c'est souvent une recherche plus importante que de condamner l'utilisation d'un comble si on veut mettre un isolant sur le plafond supérieur de l'étage occupé. Voilà. Alors, premier grand souci, c'est surtout quand vous allez travailler par en dessous, c'est surtout de laisser vos matériaux de couverture respirer. Il faut surtout qu'il y ait une lame d'air entre ce que vous ferez et votre couverture. Ça, c'est fondamental. Sinon, il va se développer des problèmes d'accumulation de froid ou de chaud et qui vont vous amener en hiver de la gélativité. De vos poteries, si c'est le cas, etc. Et en été, il y aura des accumulations de chaleur considérables. Donc il faut ici absolument qu'il y ait une lame d'air. Voilà. Alors si vous refaites votre toiture, c'est facile parce qu'au-dessus de chaque chevron, quand vous aurez mis vos protections, vos pare-pluies, eh bien, il faut mettre un contre-chevronnage ou voligeage, comme on veut, ici, pour après mettre vos voliges. C'est-à-dire vos voliges qui est ici, elles ne doivent pas reposer directement sur vos chevrons. C'est ça que ça veut dire. Donc, très important, cette lame d'air, et qu'elle soit bien ventilée. Bon, qu'est-ce qu'il faut... Alors, on a parlé de ces questions de vapeur. Il faut donc que la vapeur puisse transiter tranquillement et ressortir quand les échanges se font dans l'autre sens, c'est-à-dire en été en particulier. Alors maintenant, ces transferts de vapeur d'eau, on les favorise d'autant plus qu'on a des produits qui se régulent selon l'hiver ou l'été, et donc qui en été vous permettent, alors en hiver vous permettent d'accumuler un petit peu de vapeur d'eau, et puis en été de la réévacuer d'une manière beaucoup plus importante. Donc il y a des nouveaux procédés qui sont très intéressant, enfin des nouveaux produits, plutôt des films, d'autant plus important que si vous aviez, par malheur, comme ça m'est arrivé moi, fait à l'époque, sans faire l'aménagement du comble, si vous aviez mis un pare-vapeur complètement étanche à l'eau, ben, si vous mettez un isolant en dessous, toute la vapeur d'eau va être stockée, bloquée dans cet isolant, donc vous allez avoir un gros problème. Eh bien, avec ces nouveaux films respirants, eh ben, on peut garder le pare-pluie non respirant et faire en sorte qu'il réévacue toute la vapeur d'eau qu'il aura accumulée. Voilà. C'est un nouveau produit qui est bien connu maintenant et qui vaut mieux utiliser presque systématiquement, comme ça au moins on est sûr de ne pas faire trop de dégâts de vapeur d'eau qui se condenserait. Alors, voilà, donc c'est souvent notre cas. On ne dépose pas la couverture. On a une belle couverture ancienne. On ne va pas faire des travaux de réfection. Donc, on va faire de l'isolation. Alors, comment ça se passe? Donc, on a ce schéma-là. Vous avez donc votre lattis qui supporte votre couverture. Et puis, on a les chevrons directement en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut faire un pare-pluie, il faut faire un pare-pluie. Alors, alors voilà, c'est ce schéma-là aussi. Vous voyez que l'air... Alors, donc, il faut déjà laisser... Là-dessous, il faut laisser l'air respirer, donc il faut trouver une lame d'air. Donc, on est obligé de mettre un pare-pluie légèrement en dessous, en mettant des petites cales sur les côtés de vos chevrons, comme on le voit ici, pour que l'air puisse passer tranquillement en dessous. Voilà. Donc, quand on a ce cas de figure... d'une toiture, d'une couverture qu'on ne veut pas refaire, pour mettre un pare-pluie, le mieux, je vous l'avais dit un petit peu tout à l'heure, c'est de mettre un pare-pluie, non pas souple, Parce que vous voyez, on peut toujours mettre un parapluie souple ici, vous pouvez l'agrafer ici, etc. Mais bon, le mieux, c'est de mettre un parapluie rigide. Ce sont des bois en général agglomérés à haute densité, et ça va vous résoudre tous les problèmes. Et d'étanchéité, parce que l'eau va couler dessus sans rentrer. Ici, vous aurez quelques joints à mettre pour assurer l'étanchéité. Et en même temps, quand vous mettrez votre isolant, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème pour le bloquer contre pour laisser vraiment un vide bien dans ces structures géométriques. Alors, petite astuce aussi, pour que l'eau qui va couler peut-être sous la couverture, pour qu'elle puisse vraiment ne pas rentrer éventuellement par là ou par là, vous pouvez mettre une cale pour faire une petite flexion de votre parapluie, pour que vraiment il y ait comme une canalisation qui se déroule ici, là, l'eau va s'accumuler ici et va partir. Voilà. Ça, ce sont des nouveaux croquis qui apparaissent et qui sont, à mon avis, très importants à connaître. Alors, vous avez donc ce système-là qui est reproduit ici. Donc, une fois que vous avez mis votre parapluie ici, après, vous mettez vos différentes épaisseurs de laine d'isolant. Alors, ça, c'est quand même un gros problème, parce que vous avez des chevrons ici, mais ils ne sont pas épais. Donc, vous n'allez pas mettre 2 cm d'isolant. Il faut que vous en mettiez, d'après les objectifs qu'on a vus, à peu près 30 ou 35 cm. Alors, comment faire par en dessous pour accumuler des isolants? C'est un gros problème. Alors, je vais vous passer quelques photos sur ces questions-là. Voilà.
Comment vous évacuez l'eau, là?
Alors,
avec la parapluie.
Alors, mais le parapluie, donc là on est dans la coupe de la toiture, hein, donc la toiture. Et bien l'eau si elle s'infiltre par ici, elle va aller là, et puis après elle tombe dans la pente de la toiture. Mais elle peut passer ici, là, donc c'est pour ça que ce croquis-là est assez intéressant, parce que l'eau ne viendra qu'ici, non pas près des chevrons, mais donc viendra. Et donc il faut que vos parapluies soient montées aussi pour que vraiment la continuité se fasse l'eau vers le bas. Le problème du chevronnage. Alors grosso modo, on dit, bon, vous pouvez toujours mettre des panneaux, des éléments entre les chevrons. Mais quand vous avez des chevrons comme ça, et ça c'est pas une invention de ma part, c'est en Corrèze, absolument extraordinaire, nos charpentiers anciens nous ont fait des charpentes fantastiques avec du bois de braille qu'ils ont trouvé dans leur taillis ou dans leur forêt, et ils se sont débrouillés pour faire des sous-faces parfaitement planes avec des bois complètement tordus. Bon, alors sans aller jusqu'à ces chefs-d'œuvre, là vous avez souvent des chevrons qui sont irréguliers. Donc travailler entre les chevrons, c'est difficile. Donc moi personnellement, alors si vous avez des chevrons contemporains, tout droit, etc., il n'y a pas de problème géométrique. Mais dans les chevrons anciens, alors évidemment, la plupart du temps, moi je conseille de faire un travail sous les chevrons. Alors vous perdez un petit peu d'épaisseur, mais enfin vous êtes sûr qu'au moins ça sera bien ventilé. Et puis après, alors donc. Vous ne verrez plus les chevrons, mais ça, dans une isolation thermique recherchée, les épaisseurs sont telles que c'est sûr que vous ne voyez plus les chevrons et qu'à la limite, vous pouvez ne plus voir les pannes aussi. Hein, parce que sous le chevron, il fait 6 à 8 cm, la panne, elle fait 20 à 26 cm, donc ça vous fait facilement les 30. Voilà, ça, il faut le savoir. Si vous voulez occuper un comble, il n'est plus question de voir les pannes et les chevrons. Les pannes, c'est ce qui supporte les chevrons. Après, il faut arriver à faire tenir tout ça. Alors, vous avez des systèmes de suspentes. Donc, vous voyez que ces suspentes-là, qui sont en métal, elles sont accrochées à des rangs de chevrons. Et puis, donc, il va falloir mettre les panneaux, dans la mesure où on prend des panneaux un peu souples, il va falloir faire traverser les panneaux par ces suspentes, et ces suspentes-là vont vous permettre d'accrocher un rail. Un rail pour finalement, après, parce qu'après, il va falloir mettre le parement. Et c'est ça le problème. Donc, il y a toute une technologie à bien maîtriser. C'est quand vous prenez un système de rail métallique. Si vous voulez, votre sous-face, vous dites, bon, je vais la fixer sur des rails métalliques, comme on a l'habitude de le voir. Mais comme vous avez 35 cm à franchir avant d'avoir trouvé votre arrêt métallique, il faut que vous puissiez mettre vos isolants qui tiennent. Alors, on peut toujours les faire tenir avec des procédés ou des ficelles ou des choses comme ça pour les maintenir en équilibre. Et puis après, vous mettez votre... C'est ça que ça veut dire. Vous aurez donc, sur les chevrons qui étaient comme ça, que vous ne voyez plus là, on a fixé sur la joue des chevrons des pattes métalliques. Et ce sont ces pattes métalliques là. Là, on coupe ça, je crois. Oui, c'est ça, on coupe ça. Et puis, on peut approcher en clipsant ce rail là. Et puis après, sur le rail,
oui, mais c'était comment éviter cette armature?
Alors, ben, attendez, alors comment lutter? Okay. C'est pas toujours facile. Alors voilà un procédé que moi-même j'ai utilisé. C'est-à-dire que vous avez, alors c'était une toiture qui avait été refaite. Donc vous n'avez pas le problème des vieux chevrons, mais vous aviez le problème quand même d'un vieux pare-pluie qui était complètement imperméable à l'eau, à la vapeur d'eau. À l'eau évidemment, mais à la vapeur d'eau. Donc vous avez ici le chevron, et puis vous avez un châssis de toiture. Donc ce qui a été fait là, c'est que carrément, on a appliqué des chevrons sur les pannes directement. Alors évidemment, les croquis ici, les photos ne le voient pas bien. Donc on met les chevrons sous les pannes, et des nouveaux chevrons. Et entre les deux, on a une épaisseur suffisante pour pouvoir mettre, ici il y a 6 plus 20, 26 cm. Ça correspond exactement à l'épaisseur des pannes. Et puis, entre les chevrons, après, on va mettre, c'est un demi-chevron, on va mettre 6 cm. Donc, ça va faire 32 cm. Et puis, après, en dessous, donc, il faut trouver un bon rythme de chevron pour que après en dessous, on puisse mettre ici les 6 cm de laine de verre, de laine de bois, pardon, ici. Et puis, après, de fixer le parement. Mais fixer le parement, en général, il n'a pas le même rythme. Alors, ça n'a pas été fait là, mais alors voilà ce que ça donne une fois avant le parement, vous voyez. C'est très facile. Hein, une fois que vous avez mis ces chevrons, je ne sais pas si vous les voyez suffisamment bien, une fois que vous avez mis ces chevrons, derrière le chevron, vous glissez des laines, hein, et puis entre le chevron, vous glissez, tout ça, ça tient parce que... Force, puisqu'on force un petit peu, mais c'est très facile à poser, c'est très, sans aucun problème. Et après, donc, il faut trouver le rythme des panneaux que vous allez mettre. Alors, vous allez voir. Alors, ça, c'est un problème. C'est que, donc, sous ces chevrons, vous aurez mis donc un film par vapeur, pas de problème. Alors, avec évidemment, en scotchant bien tous les joints, etc., pour pas qu'il y ait de passage de vapeur d'eau intempestif. Là, la jonction avec les murs anciens aussi, c'est toujours un problème, etc. Et puis, alors après, pour fixer donc, ces panneaux, il faut, pour bien faire, perpendiculairement au rythme des chevrons qui ne vous correspond pas, il faut faire un rythme horizontal de petites structures qui va vous permettre qu'elles correspondent exactement au module de vos panneaux. Sinon, vous avez des difficultés parce que la jonction, je ne sais pas si vous le voyez ici, il y a des jonctions entre deux panneaux, ben ça tombe la plupart du temps sur un vide. Voilà. Bon, là ça n'a pas été fait, mais ça a été un petit peu délicat, et c'est pas tout à fait parfait. Voilà. Donc on abordera peut-être ces questions là un petit peu cet après-midi. En ce qui concerne les fenêtres, bon, c'est une question de vitrage. Alors maintenant, si vous pouvez changer les vitrages de votre fenêtre, si elle n'a pas un intérêt historique extraordinaire, c'est toujours difficile de mettre des vitrages épais, donc c'est un problème assez difficile. Les vitrages les plus couramment utilisés et performants d'une manière générale, c'est les doubles vitrages à inertie renforcée, qu'on appelle 4-16-4, c'est-à-dire 4, c'est les millimètres d'épaisseur du vitrage intérieur, 16, c'est le vide, et 4, c'est l'autre vitrage. 4, 16, 4, et avec de l'argon, parce que au lieu de l'air, parce que l'argon a une moindre convection que l'air, et donc il est beaucoup plus isolant. Voilà. Alors en revanche, évidemment, le facteur solaire, c'est-à-dire la transmission de soleil à travers votre vitrage, est moins important que si vous aviez un vitrage ancien qui vous donnait 85 cm de passage, et là, 85%, pardon, et là vous n'en avez que 65%. Enfin, ceci dit, d'après la Vox Populi, c'est admissible et c'est la meilleure formule si on met des vitrages nouveaux. double. Alors, nous, dans le bâti ancien, nous estimons très souvent que nos fenêtres sont des petites merveilles. Et donc, on propose de les garder et de faire une deuxième fenêtre à l'intérieur. Alors, vous voyez qu'on a la place, en général, de mettre une deuxième fenêtre, souvent. Vous voyez des exemples vus de l'extérieur, qu'une deuxième fenêtre, ça se fait dans beaucoup de pays, à climat froid, l'Alsace, en Allemagne, en Grande-Bretagne, etc., dans le pays de l'Europe de l'Est et du Nord. Donc, en France, on le voit de plus en plus. On en a vu beaucoup pour des questions phoniques. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne seraient pas convaincus, je vous donne des exemples. Alors, vu de l'extérieur, vous avez donc ici, vous avez la double fenêtre qui est ouverte sur l'intérieur. Et puis, voilà ce que ça donne, vu de l'intérieur. Vous avez l'ancienne fenêtre, puis vous avez la double fenêtre à l'intérieur.
Pourquoi il n'y a pas de petit bois ?
Alors, ça c'est... Qui a dit ça ? C'est vous ? Oui, ça c'est très, très bien. C'est pour ne pas lutter contre l'aspect de la fenêtre vu de l'extérieur. Si vous avez des petits bois ici, si vous remettez des petits bois ici, vous allez avoir un dédoublement. Donc il vaut mieux avoir une deuxième fenêtre complètement neutre. Et il faut même la peindre d'une manière assez neutre pour que de l'extérieur on ne le voit pas. Alors voilà, ce sont des croquis pour prouver que si vous avez un ébrasement, si vous avez un ébrasement important, vous pouvez loger votre deuxième fenêtre à l'intérieur ici, en même temps que vous avez fait un renforcement d'isolation à l'intérieur. Donc vous avez une continuité thermique qui est intéressante. Et si vous n'avez pas d'ébrasement à l'intérieur, vous pouvez toujours mettre quand même la deuxième fenêtre ici, un petit peu, toujours il faut qu'elle soit un petit peu plus grande que la première fenêtre. Vous pouvez toujours le mettre et toujours en prolongement de votre isolant. Voilà des croquis qui sont malvenus sur cette photo, où on voit la fenêtre avant et l'aspect que ça peut avoir après. Bon, une ventilation. Donc nous, ce que l'on propose, vous ne faites pas de capsule dans le bâti ancien, on ne peut pas. Bon, vous ventilez vos pièces humides. C'est tout le temps qu'il y a d'humidité, avec un réglage de thermostat ou d'arrêt au bout de quelques instants d'utilisation. Voilà. Et